AMC. M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Salut à tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour partager l'actualité et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, Christophe Willem, un artiste particulier, moi j'ai voté pour lui quand il était candidat à la Nouvelle Star, c'était il y a 10 ans. Il sort son 5e album, j'ai plein de choses à lui dire. Mais d'abord, nous confions nos vies à nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, et c'est peut-être notre pire problème. Hier, le gouvernement a lancé une plateforme d'assistance et parle de créer une 4e armée pour se protéger de la cybercriminalité. Vous pensez à l'abri, vous mettez tout sur le cloud, vos photos, vos comptes en banque, vos codes, vos secrets. Vous est-il arrivé de vous faire pirater sur Facebook, sur mail ou encore votre carte bancaire? Personne n'est donc à l'abri de la cybercriminalité. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Jérôme et moi attendons vos appels au 3216 et bien sûr sur Twitter, hashtag M comme M.
RMC, M comme Maïtena.
Un hacker attaque nos marchés financiers.
Quatre grandes banques.
Une faille qui vient d'être découverte dans la sécurité des réseaux Wi-Fi.
Une fois le mot de passe percé à jour, c'est toute l'identité numérique de son propriétaire qui est compromise.
Ça, c'est le code. Cette portion-là semble incomplète. Il est en train de l'écrire, mais dans quel but?
Le pire, c'est que tous les appareils qui utilisent du Wi-Fi aujourd'hui sont concernés.
Pour les Wi-Fi publics, alors moi je conseille de les utiliser le moins possible.
Des vols de données qui peuvent permettre à des pirates de contracter un prêt bancaire à votre place.
Maïtena Birabin.
Bonjour Nicolas Harpagian.
Bonjour.
Tremble. Vous êtes spécialiste de cybercriminalité, vous êtes l'auteur d'un que sais-je sur le sujet. Vous dirigez un institut au nom très sérieux. Est-ce que vous avez déjà été piraté, vous?
Alors non, pas pour l'instant. En tout cas, pas de manière consciente. Et effectivement, alors ça va peut-être rajouter à votre inquiétude, c'est que la particularité du numérique, c'est que la cible peut ignorer son statut de victime. Un peu comme quand je rentre chez vous, je visite votre appartement et je regarde ce qui s'y passe, mais je ne casse rien, je ne salis rien, je ressort. Par contre, j'ai collecté plein d'informations sur vos photos de famille, sur votre alimentation, là où est votre le coffre à bijoux. Mais par contre, je n'ai rien volé. Et si vous rentrez le soir,
je ne le verrai pas.
En fait, voilà, vous ignorez votre statut de victime.
Je l'ignorerai. Damien Bancal, bonjour.
Faire surtout, moi, c'est que je vais me mettre dans un coin.
Je suis là. Damien, vous êtes avec nous. Bonjour, Damien.
Bonjour.
Ça va? Vous courez?
Oui, c'était un peu la course, je vous l'avoue.
Non, mais tout va bien. Vous êtes là. Prenez votre temps. Je vais rappeler que vous êtes journaliste spécialiste en cybercriminalité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être piraté, vous?
Alors, j'avoue qu'il m'est arrivé d'avoir eu une petite visite il y a maintenant une quinzaine d'années.
Oui.
Et j'avoue aussi que des attaques tous les jours, c'est entre 200 et 300.
Oui, c'est ça. Bah, pas forcément sur vos comptes à vous, mais au quotidien, c'est ça que vous voulez dire?
Au quotidien, oui, sur mes blogs, en fait.
Ah, sur vos blogs, d'accord.
Oui, nos outils qui nous permettent de nous dire, tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer.
Ouais. Alors, le risque majeur, Nicolas Harpagian, est-ce qu'il est pour les entreprises, pour les particuliers, pour les États? Qui est ciblé
d'abord?
Alors,
en fait, toute personne connectée à Internet, en fait, doit être conscient qu'il y a un risque. Il y a un risque numérique, c'est-à-dire le fait que l'on puisse rentrer dans l'équipement qui est connecté à Internet. Alors évidemment, les entreprises ont à perdre des secrets, ont à perdre de l'argent, ont à perdre éventuellement la confiance de leurs actionnaires, du marché, voire éventuellement être obligées d'être sanctionnées si effectivement un certain nombre de données sont volées et qu'on voit qu'elles n'ont pas fait diligence, en tout cas elles n'ont pas fait en sorte de les protéger. Ce qui est certain, c'est que ça concerne tout le monde, d'autant plus qu'on est à l'échelle international, parce que c'est l'interconnexion qui va faire la facilité de la propagation de l'information par les réseaux. Et donc, c'est vrai que même un individu, quelle que soit sa localisation géographique, quel que soit son domaine d'activité, dès lors qu'il est connecté à Internet, peut participer, à son insu ou pas, effectivement, à une cyberattaque.
Mais vous parlez effectivement de connectivité dans le monde entier, mais on a du mal, ça reste une idée assez abstraite, on a du mal à se figurer ce que
un pirate pourrait faire. Téléphone. En fait, votre téléphone, par exemple, ou votre ordinateur à la maison, il a une certaine puissance de calcul. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un pirate va contaminer un très grand nombre d'ordinateurs et qu'il donne l'ordre à ses ordinateurs contaminés à l'insu des propriétaires légitimes, de se connecter par exemple simultanément sur le site RMC Info.
Oui.
En fait, le site va être saturé, ne pourra plus être accessible. Vous voyez, votre ordinateur en tant que particulier va être en tout cas mis à contribution pour faire en sorte de déstabiliser, prenons l'exemple d'une entreprise ou un site de e-commerce qui, pendant qu'il sera inaccessible, ne pourra pas faire des affaires et donc évidemment sera pénalisé économiquement.
Laurent est avec nous au 3216. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Merci d'être là, ça va?
Oui, très très bien, merci.
Vous avez déjà été piraté, vous?
Alors non, heureusement. En tout cas, comme disait votre interlocuteur, le plus mauvais pirate, c'est celui qu'on voit.
Hein. Oui, c'est vrai.
Il y a celui qu'on voit pas. Quand on est dans des données numériques, donc rien n'interdit à une personne de rentrer chez vous, de faire une copie de ce que vous avez
et de repartir. Ouais.
Voilà, c'est pas la même chose que si vous prenez votre télévision, effectivement, vous rentrez le soir à la maison et vous voyez plus votre télévision.
Oui.
Donc jusqu'à maintenant, je dirais non.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous semble le plus grave pour vous ? C'est quand on visite un site de particulier ou quand on va sur un site de société ?
À quel niveau ? Au niveau du piratage, vous voulez dire ?
Ah bah oui, bon, oui.
Je pense que tout le monde, votre interlocuteur l'a bien nommé, c'est que en fait, on est ou acteur pour pirater ou on est passif dans le sens où votre ordinateur à la maison peut servir ou vous-même pour pirater quelqu'un,
oui.
Très facilement, on l'a vu
c'est
à travers
vrai.
Le monde, c'est-à-dire qu'on est à l'autre bout de notre pays, très très loin, dans un petit boui-boui, et vous avez la puissance de pouvoir pirater la multinationale qui se trouve aux États-Unis ou en France, mais aussi vous êtes passif, c'est-à-dire qu'en fait vous avez effectivement votre téléphone, votre smartphone, ou maintenant la mode c'est les objets connectés, on a des objets connectés partout,
oui.
Qui sont avec des processeurs très intelligents, dont les gens qui ont fait ces objets n'ont pas toujours pensé à la sécurité. Ils pensent à faire des choses bien, à faire des choses pratiques, mais pas automatiquement sécurisées. Et ben, ça devient une arme, entre guillemets, qui est à disposition dormante pour pouvoir attaquer
Laurent,
le système.
Laurent, vous travaillez dans la sécurité informatique, c'est ça ?
Absolument, oui, contre des logiciels, oui.
Vous êtes capable de pirater ?
Oui.
Oui.
Malheureusement, oui.
Et moi, je suis incapable, là, aujourd'hui. Mais si je vous vois un quart d'heure, une demi-heure, je saurais le faire après ?
Alors, c'est ça le pire, c'est que oui, c'est qu'en plus, c'est que la capacité de pouvoir pirater par la puissance de calcul des ordinateurs est devenue de plus en plus facile,
oui.
Et en plus, sur Internet, circulent maintenant des logiciels qui ont été faits souvent par des passionnés, juste pour démontrer que c'est possible, automatiquement pour nuire, qui sont totalement automatisés.
Oui.
On a actuellement ce qu'on appelle la norme WPA2, enfin, c'est une norme de Wi-Fi qu'on avait su sécuriser pendant des
années.
On l'a
vu hier, on nous en parle depuis hier, c'est donc le Wi-Fi, si quelqu'un est proche de chez vous, il peut pirater le Wi-Fi sans aucun problème.
Mais le problème, c'est que c'est facile. C'est-à-dire qu'il utilise un logiciel qu'il lance sur son ordinateur, qui est facile à comprendre, et très simplement, ou avant c'était compliqué, ben là, très facilement, il peut pénétrer votre système.
Damien Bocal, on a vu que, évidemment, la 3G, la 4G, Internet a envahi nos vies à une vitesse absolument invraisemblable, pris une place extraordinaire. Est-ce que les systèmes de sécurité ont été aussi vite qu'Internet ?
Non, parce qu'effectivement, il faut penser que les internets n'ont pas été, en plus, réfléchis pour être aussi ouverts au monde.
Oui.
On a aussi un véritable problème, c'est qu'on a une véritable course au marketing. J'entends par là que de nombreuses sociétés, on parle par exemple de la French Tech, qui veulent être les premiers sur un marché des objets connectés, par exemple.
Mm-hmm.
Et on le voit très clairement, aujourd'hui, la sécurité n'est pas la priorité, parce que ça a un coût, parce qu'il faut des hommes. Mm-hmm. Très important de le rappeler que la sécurité informatique commence avant tout par l'humain.
Mm-hmm.
Et
que, ça veut dire que quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui vérifie, c'est ça ? Quelqu'un qui est là pour constater.
C'est ça, il faut clairement des gens dont c'est le métier de faire ce qu'on appelle vulgairement le pen test, l'audit, mais des gens qui sont capables de dire autre chose que c'est joli parce que c'est la belle couleur, c'est beau parce que c'est la belle forme. Non, il faut aussi penser à cette partie qui est qu'on ne voit pas, certes, mais aujourd'hui, chiffrer les informations qui transitent est une obligation. Pensez à expliquer aux gens que le mot de passe dans l'objet qu'on vient d'acheter doit être fort et réfléchi. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut obligatoirement rajouter dans nos outils, dans notre informatique, notre numérique.
Ça veut dire, Nicolas Arpagian, que vous êtes, si je vous voyais hocher la tête en écoutant Damien Bocal, vous êtes d'accord, vous, avec cette proposition du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, de créer une quatrième armée ? On a l'armée de terre, on a l'armée de l'air, on a la marine, et lui, il dit, il faut faire l'armée cyber.
Elle existe en fait déjà partiellement. Il y a un état-major cyber avec un justement de manière à faire en sorte de former des gens qui soient opérationnels. Alors
oui, mais il y a un bassin d'emploi énorme, c'est ce que vient de nous dire.
Alors il y a un bassin. En fait, il y a une demande. La seule chose, c'est qu'il y a une relative pénurie. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des acteurs sont à la recherche des mêmes profils ou en tout cas de profils comparables, c'est-à-dire les entreprises utilisatrices, les prestataires de services, les forces armées et également les administrations. Les services du Premier ministre ont une agence, l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information.
Mmh.
C'est elle qui a effectivement parrainer et susciter la création de la plateforme sur les cybervictimes, la cybermalveillance
qui est sortie hier, sur laquelle vous pouvez aller, qui est plutôt pas mal.
En fait, l'idée, c'est surtout avec cette plateforme de faire en sorte que si vous avez un problème, vous puissiez décrire ce problème et trouver un prestataire capable de vous porter assistance à proximité de chez vous.
Laurent, vous saviez qu'il existe, par exemple, en Israël, un bac de cyberdéfense qui existe depuis 6 ans. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée qu'on développe ça en France ?
Alors, c'est déjà développé en France. Moi, je suis basé à Troyes dans l'Aube, où par exemple, on a un UTT avec des gens assez performants, où il y a une unité qui travaille sur la cybersécurité.
Vous avez combien d'élèves Combien d'élèves vous avez?
Alors, c'est pas moi qui les a. Hein. C'est
oui,
pas moi qui les a. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas combien il y en a. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils forment des élèves donc à la sécurité informatique et aussi à la. Ils forment aussi les gendarmes, je crois, aussi à les préparer pour pouvoir aborder ces sujets. Le souci, ce qu'a dit votre interlocuteur est important, c'est que en fait, le problème de la sécurité. Alors, je parle en France. Hein, je reste franco-français. C'est que plus c'est sécurisé, plus c'est compliqué. Or, on veut que l'informatique soit facile et souple. Et automatiquement, on est obligé de casser des barrières de sécurité pour rendre la chose facile.
Damien Bancal, est-ce que quand on emploie le mot du shutdown, vous en avez bien entendu parler de cette chose-là, ça veut dire fermeture en anglais, mais enfin, c'est surtout l'extinction de la machine. Est-ce qu'on peut imaginer un shutdown sur un État? Ça passerait par quel site?
Le problème, c'est que c'est avant tout c'est vraiment du vocabulaire, ça. Parce qu'aujourd'hui, fermer un État, ou bloquer en tout cas une entreprise globalement, qu'on le veuille ou non, ça paraît simple, mais c'est aussi très compliqué par rapport à l'envergure et la taille de la cible. On a des attaques, hein. On prend par exemple la Suède qui a subi plusieurs attaques dernièrement, ce qu'on appelle des DDoS. Donc en gros, c'est je vide toutes mes poubelles de votre entrée, vous ne pouvez plus rentrer ni sortir. Ça a visé son transport public. Ça a bloqué pendant quelques heures. Maintenant, bloquer l'intégralité d'un pays, ça voudrait dire s'attaquer physiquement, par exemple, à l'électricité, mais aussi aux espaces de stockage, hein, des serveurs et de tout ce qui permet de gérer l'informatique, mais aussi d'attaquer des sites sensibles parce qu'ils sont capables de répondre ou en tout cas d'apporter une solution et des messages militaires ou autres.
Oui.
Voilà, aujourd'hui, une attaque globale, heureusement, ça reste de la science-fiction, mais on se rend compte qu'on a de la chance aussi, c'est qu'on n'a pas tant de groupes de pirates très organisés qui, un jour, pourraient décider de le faire véritablement. Là, c'est encore peut-être de la science-fiction, mais c'est pas impossible.
Plus pour très longtemps, Nicolas.
Alors,
Pagian.
En fait, la France a désigné par une loi, ça s'appelle la loi de programmation militaire, qui est rentrée en vigueur en 2016, l'année dernière, a désigné 260 grandes entreprises qu'on a qualifiées d'OIV, opérateurs d'importance vitale. La définition d'un OIV, c'est une entreprise dont la défaillance mettrait en péril le collectif national, la collectivité France. Et donc, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui est un service sous l'autorité du Premier ministre, a fait en sorte de dire à ces 260, alors dont la liste est classifiée, donc on ne peut pas en principe
mais vous avez une idée
mentionner, bah, en tout cas des grands acteurs, pourquoi? Parce qu'il y a 12 secteurs économiques,
donc
dans l'énergie, dans l'énergie, dans le transport de l'eau, dans la santé, dans l'alimentation, dans les télécoms. On en a 260 et l'idée c'est que ces entreprises ont des obligations particulièrement sévères pour assurer d'une part la sécurité de leur système, mais surtout leur résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est?
Comment s'en sortir quand on est attaqué?
Bravo, je ne peux pas empêcher une attaque. Et donc, effectivement, qu'est-ce que vous avez mis en place si une attaque devait débuter, que vous n'avez pas pu empêcher, pour revenir à la situation normale dans les meilleurs délais? La seule chose, c'est que ça coûte, évidemment, et vous voyez bien que ces 260 entreprises, comme le disait très bien Damien, au bout d'un moment, vous disent, bon, attendez, moi, je suis dans la compétition économique internationale, ces investissements vont alourdir mes dépenses, vont alourdir la nécessité de rendre ces éléments plus sécurisés. Est-ce que c'est vraiment un élément de compétitivité? Oui, il faut justement expliquer et faire de la pédagogie. Être sécurisé est un élément différenciateur sur le marché.
Alors, on entend
bien. Un exemple très concret d'hier, hein, d'une de ces entreprises, pour pas la citer, c'est ERDF, qui a eu un problème de sécurité sur un de ses sites.
Oui.
On les a alertés. Dans la minute, j'avais un coup de téléphone. Dans les 10 minutes, j'avais 4 personnes qui me contactaient par mail. Dans le quart d'heure, c'était corrigé. Donc, on voit qu'il y a une véritable réflexion et efficacité.
Heureusement, heureusement. Messieurs, on comprend bien une centrale électrique, les hôpitaux. On se souvient de TV5 Monde, dont le site avait été hacké. On comprend tout de suite. Bon, si on vient se balader sur mon Facebook et qu'on regarde mes photos, c'est pas très grave.
Alors, un Facebook, en fait, ça dépend. Par exemple, vous prenez la présidence de la République française à un système intranet, cet intranet a été piraté. Alors on le sait maintenant, puisqu'il s'avère que le patron de la NSA a fait son mea culpa, ou en tout cas, lorsque la question lui a été posée, il a répondu en disant que c'était effectivement les États-Unis qui l'avaient fait. L'avaient fait comment? Ils sont passés par le compte Facebook d'un collaborateur du président de la République. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait commis la faute, l'erreur, d'avoir sur son ordinateur professionnel l'accès à l'intranet de l'Élysée, l'accès au Facebook. Et donc, c'est vrai qu'on peut utiliser le vecteur de contamination.
Attendez, je fais une incise dans ce que vous êtes en train de nous dire. On est très nombreux à avoir nos mails bureaux et privés sur notre téléphone, par exemple. Si on perd notre téléphone, la personne a accès à tous les mails de l'entreprise.
Elle n'a pas accès, simplement, elle a profité, en l'occurrence, ils avaient envoyé par le système, justement, Facebook, faire en sorte que la personne avait l'illusion, en cliquant sur un lien, que, effectivement, la page auquel elle se connectait était celle de l'intranet de l'Élysée. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on va pouvoir utiliser un pirate, c'est quelqu'un qui, en général, ne va pas chercher la performance. Ouais. Il va chercher l'efficacité. Si, par exemple, on a connu les escroqueries au président, un certain nombre d'entreprises se sont fait appeler PME, grands groupes, multinationales, en disant, avec une histoire bien rodée, avec quelqu'un qui manifestement était renseigné, mais avec des informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur le site internet d'une entreprise, et qui à un moment disait « Bonjour, je suis la collaboratrice de Maïtena Birabin, est-ce que vous pouvez me donner, je dois juste faire une vérification technique, son identifiant et son mot de passe ?» Si votre assistante, à un moment, quelqu'un était inspiré, trouvé avec confiance dans cette requête, effectivement, les données. Et vous voyez qu'on a eu des systèmes où il n'y avait pas de performance technique, il y avait ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Beaucoup d'intelligence, de préparation pour vous inciter à communiquer des éléments qui ont vocation à rester secrets. En fait, ce qu'il faut, c'est se dire que le pirate va toujours essayer de rechercher le maillon faible, celui qui peut représenter, on a l'exemple d'un grand groupe américain de distribution qui est très performant, qui répond à des réglementations assez strictes, il s'avère qu'il avait un prestataire en climatisation, celui qui assurait le chauffage, la réfrigération des magasins. Et il s'avère, le pirate a piraté et rentré par le prestataire en climatisation, plus petit, moins équipé, moins robuste d'un point de vue technique. C'était là le maillon faible de la chaîne économique.
Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous au 3216. Vous allez voir dans un instant, je demandais à Nicolas Arpagian de nous faire peur vraiment. Si on vous pique une de vos photos sur Facebook, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? On vous le dit dans un instant, à tout de suite. Merci Laurent.
RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Dès qu'on se connecte, on ne contrôle plus rien.
Mai 2017, rappelez-vous, le logiciel malveillant WannaCry affecte plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays.
Je peux frapper qui je veux, ce que je veux, où je veux.
La cybersécurité, c'est quelque chose, c'est un problème de tous les instants, qui touche tout le monde, toutes les entreprises, toutes les administrations.
Tout ça à cause d'un petit bout de code informatique qui exploite une faille.
On s'est aperçu que des entreprises se faisaient piller des informations depuis des années, parfois sans qu'elles s'en aperçoivent.
Maïtena Birabin.
Tremble, peuple de France. Le président de la République est en train de s'exprimer à l'instant sur la sécurité et la première des choses qu'il déclare, c'est que la première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. C'est exactement ce dont nous discutons avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybercriminalité, et Nicolas Arpagian, spécialiste, lui aussi auteur d'un Que sais-je sur la cybercriminalité. Qu'on le veuille ou non, moi je viens d'une famille où il n'y a pas de carte bleue, où on ne laisse pas de traces, même quand on passe au péage, me disaient mes frères tout le temps, etc. Que je le veuille ou non, il y a des informations sur moi, sur Internet, c'est obligatoire, Damien Bancal.
C'est obligatoire, oui, parce qu'aujourd'hui, on est ultra connecté. Je prends juste l'exemple d'un téléphone portable, certes de nouvelle génération. Rien que déjà le fait de le brancher, de le connecter, on a déjà laissé l'emplacement géographique, éventuellement le matériel utilisé, la box Wi-Fi si on passe par ce biais-là. Et je ne prends que l'espace de téléphone portable. Mais regardez aujourd'hui. On veut, par exemple, payer ses impôts. On veut, par exemple, prendre le train.
Oui.
On se rend compte que tout est connecté.
Oui. Ben oui, tout est connecté. On n'a plus le choix, ça veut dire que c'est absolument impossible. On vivrait dans un autre monde, Nicolas Arpagian, si on pensait qu'on pouvait ne pas avoir de données sur nous sur Internet.
Alors en fait, il faut juste garder à l'esprit que la connexion numérique, ça laisse des traces. C'est-à-dire que dès lors qu'en plus on laisse des données sur la date, l'heure, le lieu où on consomme et ce qu'on y fait, notre navigation. Je vous recommande d'aller sur le site de la CNIL, cnil.fr. Il y a une rubrique qui s'appelle
CNIL.
Vos traces.
Ouais.
Et vous allez sur vos traces et vous allez voir que votre ordinateur fournit déjà comme information dès lors que vous visitez un site. Vous allez voir le navigateur, c'est-à-dire est-ce que vous utilisez Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. Il va même y avoir la taille de l'écran. Vous allez me dire pourquoi, à quoi ça sert la taille de l'écran? Oh, c'est très simple, ça sert surtout aux publicitaires parce que si une majorité de gens ont un écran d'une certaine taille, ça sert à rien de mettre des pubs, disons de taille réduite, ça ne sert à rien de mettre des publicités en bas à droite si les gens ne vont pas les regarder. Bref, on a plein d'informations et ça vous permet de prendre conscience conscience de ce que l'on laisse comme trace.
Alors on va faire, allez-y.
Et alors la deuxième chose, c'est qu'effectivement, avant il y avait une problématique matérielle, physique, de stockage de l'information.
Oui.
Vous disiez, je voulais pas laisser de trace, effectivement, parce que vous étiez presque, on vous dit, c'est comme quand on disait, on peut pas mettre un policier derrière chacun pour suivre ce qu'il a fait. Il s'avère qu'aujourd'hui, la compilation des données, leur stockage n'a plus vraiment de barrière financière, c'est-à-dire que c'est relativement abordable, et c'est surtout qu'on a compris qu'une partie de l'économie numérique était fondée sur le raffinage, au sens pétrolier, c'est-à-dire j'ai une matière brute, les données, et je vais les analyser de manière à connaître les comportements, savoir justement à quelle heure est-ce que vous, les gens prennent la voiture et traversent, à quelle vitesse vous allez, est-ce que vous avez fait des pauses ou pas, et donc on va raffiner cette information parce que c'est un élément de création de valeur, et donc vous voyez bien que tout ce qui va vous permettre de vous singulariser. Alors, tant que c'est pour votre bien, vous pouvez vous en réjouir.
Ou pas, je sais pas.
Mais c'est vrai, effectivement, que ça peut constituer des éléments d'identification, de flicage, diront certains. Et c'est cet équilibre qui est tout à fait sujet à discussion.
Alors, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être trouvé un moyen d'échapper à tout ça. N'hésitez pas, 3216 avec Jérôme, on attend vos appels. Olivier est avec nous au 3216. Bonjour Olivier.
Bonjour Maïté.
Merci d'être là, ça va ?
Ouais, ça va bien.
Vous aussi, vous êtes un spécialiste en sécurité informatique, donc tout ce que vous entendez, vous le saviez déjà ?
Exactement, oui, tout à fait. Ce sont des choses que l'on entend régulièrement dans notre activité. Ouais.
Alors Olivier, dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous ne faites jamais sur Internet et que je fais moi.
Oula. Disons que, ne serait-ce que lire les conditions générales d'utilisation.
Olivier, vous le faites pas, personne ne le fait, c'est pas possible.
Non, c'est pas ça, c'est pas là-dessus que je vais vous mettre en garde. C'est que, simplement, plus on multiplie l'installation d'applications pour parler des smartphones, puisqu'on était sur ce sujet, plus on diffuse des informations personnelles.
Ouais.
Donc on fait une confiance aveugle à des services qui nous plaisent, on valide les conditions générales d'utilisation sans les lire, et donc on confie des données personnelles, et on ne sait pas exactement quel type de données personnelles on confie à ces sociétés tiers.
Alors, comme quoi par exemple ? Qu'est-ce qu'on nous pique quand la dernière fois que j'ai signé ça, effectivement sans le lire, clairement, qu'est-ce qu'on m'a piqué ?
Oh, on peut retrouver de tout et n'importe quoi. Votre géolocalisation, l'accès à votre portefeuille de contact, des données, des accès à vos photos, des accès à plusieurs choses qui sont assez intimes. Sauf que le risque dans tout ça, c'est que la confiance aveugle qui est faite dans ces sociétés tierces, le risque qui peut se passer, c'est que ce service puisse se faire lui-même pirater.
Bien sûr.
Lui, en règle générale, a besoin de ses accès. Notamment, c'est pour vendre de la publicité.
Oui, voilà. On a bien compris qu'on était que de la machine à pub.
Exactement. Sauf que lorsque ces entreprises-là se font pirater, vos données se retrouvent la plupart du temps en libre-service sur des fuites de données, que ce soit dans le dark web ou sur le web classique. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Ces données qui vous sont personnelles sont livrées à d'autres personnes qui peuvent après les utiliser contre vous et pourquoi pas, prendre le contrôle de votre univers numérique.
Alors par exemple, créer une fausse identité. Damien Bocal, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses ? D'avoir un compte, Maïtena Birabin, un compte Facebook, un compte Twitter, et tout d'un coup, on a l'impression que c'est moi qui m'exprime, moi ou quelqu'un d'autre, n'importe qui d'entre nous, et qui prend un crédit, qui a une existence virtuelle propre.
L'usurpation d'identité sur les internets est clairement un sport olympique.
Ouais.
Parce que c'est se créer une identité pour juste que mes voisins ne me reconnaissent pas, jusqu'à une personne qui va justement recréer une identité pour détourner des informations et tenter de voler de l'argent ou infiltrer un secteur qui n'est pas le sien pour justement espionner et autres. Oui, c'est devenu malheureusement aussi très simple à faire. Ça peut se remonter selon les outils et les moyens, mais aujourd'hui, oui, le petit criminel de la rue peut très rapidement se retrouver petit criminel du numérique, parce que 2-3 modes d'emploi font de lui quelqu'un qui pense être anonyme.
Alors Damien Bocal, est-ce que la police est à la hauteur pour la cybercriminalité du particulier ? Il y a combien de personnel de police qui travaille contre ces criminels ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait déjà qu'on a plusieurs services de police en France. On a d'abord la police nationale, on prend par exemple avec l'OCLCTIC, c'est l'Office Central de Lutte contre le Crime.
Ils sont combien ?
Bonne question, il faudra leur demander.
12
Ça reste des chiffres qui sont, en tout cas, pour certains officiels, mais qui sont aussi officieux. Je prends l'exemple des gendarmes de la nouvelle technologie, ce qu'on appelait anciennement les NTEC, donc les cybergendarmes.
On a le C3N, qui est justement une espèce de FBI du numérique monté par la gendarmerie nationale. Mmh. Voilà, il y a de plus en plus de
monde. Nicolas Arpajon est mort de rire.
Non,
en
pas du tout. Mes camarades gendarmes seront ravis d'être qualifiés de FBI. Donc
en tout cas, le C3N. Non, mais toujours est-il que il y a de plus en plus de recrutement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de recrutement d'ingénieurs ou de populations privé pour ouais. justement intégrer des services qui ont besoin de plus en plus de techniciens aussi.
Alors Nicolas Arpajon.
En fait, ce que Damien a commencé à esquisser, c'est-à-dire que vous avez maintenant dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats, en fait, quelqu'un qui est, au moment où vous allez arriver pour porter plainte ou en tout cas exprimer un préjudice, déjà est capable de vous écouter et d'envisager que effectivement sur Internet on peut conduire à des infractions. Ça c'est important parce que ça n'a pas toujours été le cas.
Ça y est, c'est voilà. Fait
donc maintenant il y a eu des formations chez les policiers, chez les gendarmes.
Maintenant, deuxième il n'y a chose, plus utiliser un ordinateur et qu'il fonctionne.
Alors, ça, faut quand même, ils y arrivent quand même. Mais c'est vrai que c'est au moins que ce soit pris en compte parce qu'il pouvait y avoir. Moi, j'enseigne à l'École nationale supérieure de la police et c'est vrai que il a fallu il y a quelques années instiller, diffuser l'idée que c'est pas parce que c'était numérique qu'il n'y avait pas de préjudice. Et oui. Donc, c'est important. Donc après, ensuite, effectivement, il y a l'Office central chargé de la criminalité liée aux technologies de l'information qui lui va centraliser, comme son nom l'indique, et va permettre de comprendre aussi, par exemple, si on vous a volé à vous 5 euros, oui. mais que ce mode opératoire se retrouve dans des dizaines, auprès de dizaines de particuliers, on va s'apercevoir, voire des centaines, que c'est bien une opération de grande ampleur et que donc on peut en tirer les enseignements pour mener des procédures. Deuxième chose, effectivement, les gendarmes, donc le siège notamment est à Pontoise, à côté de Paris, font beaucoup de recherches techniques sur les ordinateurs, de comprendre comment on arrive à casser des équipements qui sont dans des réorganisations criminelles. Il y a une culture d'ingénieur, justement pour essayer de rivaliser avec cette expertise technique. Et enfin, il faut des magistrats, parce que les magistrats vont comprendre les spécificités. C'est beaucoup de formation. C'est pour l'instant, il y a des substituts à Paris, au parquet de Paris, qui sont spécialisés en cybercriminalité, ce qui permet notamment, dans le cadre d'Europol, d'échanger avec, au sein d'une cellule dédiée à la cybersécurité, le EC3, faire en sorte que on puisse parler entre gens qui ont la même langue technique et juridique. En fait, à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir la même, ou en tout cas une fluidité comparable à ce que les criminels ont à leur disposition quand il s'agit de sauter les frontières et de tirer avantage du morcellement des réglementations.
Moi, je veux bien parler à quelqu'un du EC3. Si tu travailles au EC3, appelle-moi.
European Cybercrime Center, donc justement, qui est à
Très
Laye,
envie, là, vraiment.
Qui est à Laye.
Juste une chose, si je pirate vos coordonnées, Damien Bancal, et que je prends un crédit à votre nom avec en ayant fait une usurpation d'identité, c'est vous qui allez payer ou pas?
Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'une usurpation d'identité, c'est mon clone. Donc il va falloir que je trouve le moyen de prouver que je ne suis pas derrière cette escroquerie.
Attendez, arrêtez tout là. Ça veut dire que si je me fais usurper mon identité, qui que je sois, c'est à moi de prouver que c'est pas moi-même?
Il va être compliqué de faire comprendre à la banque que vous n'êtes pas la personne qui a été dans je ne sais trop quel magasin pour acheter cette télévision qui va bien.
Et s'il y a un interdit bancaire, et que le dossier est à votre nom avec votre date de naissance et des éléments, votre adresse personnelle, en fait, vous allez être obligé de faire la démonstration. Alors, comme disait le juriste, à contrario, c'est-à-dire faire en sorte de montrer que vous n'êtes pas la personne en question.
Mais je peux pas faire ça, comment faire?
Et justement, c'est pour ça. Alors, il va falloir montrer par rapport à vos déplacements, par rapport à des sommes que vous n'avez pas consommées, des virements qui ne sont pas intervenus sur un compte à vous, éventuellement que la signature utilisée n'est pas la vôtre, mais effectivement, il va falloir vous disculper en quelque sorte, et c'est quelque chose qui est extrêmement fastidieux. Aux États-Unis, l'administration américaine a même créé une plateforme gouvernementale pour accompagner les gens qui font l'objet d'une usurpation d'identité, parce que c'est très traumatisant, parce que ça touche à votre intimité, et puis c'est surtout très fastidieux, très complexe. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, l'administration américaine a formalisé, concrétisé l'aide aux victimes.
On voit bien face à quoi on se retrouve, une espèce de pieuvre molle et invisible. Olivier, vous qui êtes avec nous au 3216, vous êtes spécialiste sécurité en informatique, vous êtes du bon côté mais vous pourriez passer du mauvais. Ce soir à 18h, peut-être que vous avez une face sombre qui se réveille et que... Puisque les gens sympas font des démonstrations de comment hacker les comptes sur les sites, qu'on peut aller regarder et qu'on veut montrer la faiblesse de quelque chose en rendant service, on ne sait plus.
Alors ça s'appelle l'éthique. Après, il faut quand même garder l'éthique et le respect de la loi. Ça doit se faire de manière éclairé, et ça c'est par contre c'est évidemment une démarche, la déontologie, l'éthique, des démarches éminemment personnelles.
L'éthique, elle peut être fluctuante en fonction de ses besoins financiers, Olivier, non?
Ces gens-là ont un nom, on appelle ça les grey hats, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent pas forcément à faire leur place qui partent d'un bon sentiment au départ,
oui,
et qui n'arrivent pas forcément à vivre de leur savoir-faire, et qui parfois mettent le doigt dans le pot de confiture.
Vous en connaissez, Olivier? Vous en connaissez?
Forcément, quand on travaille dans ce milieu-là, on est toujours obligé de faire face à des communautés de hackers pour être toujours informé, savoir ce qui se passe. On parlait des derniers piratages, ce qu'on appelle des zero day. Donc ces zero day se trouvent pas forcément dans les médias, ils se trouvent sur des forums, que ce soit dans le darknet ou que ce soit sur des forums spécialisés qui sont pas référencés, quoi.
Sur quel site il faut absolument pas aller parce qu'on est sûr de se faire pirater? Ça fait rire, Nicolas.
Dites-vous que c'est comme dans la vie réelle, c'est-à-dire que dans la vie réelle, il vous viendrait pas l'idée d'aller voir du contenu, il vous viendrait pas l'idée que quelqu'un vous offre un film que vous connaissiez pas ou des logiciels payants qui sont gratuits. Dites-vous bien que s'il y a des gens qui mettent en place des serveurs pour vous donner des supports que vous n'avez pas à payer, c'est que quelque part derrière, il y a des fortes probabilités qui viennent affecter votre machine, quoi.
Dernière question, Damien Bancal, je le dis pour tous ceux qui le font, quand je télécharge un film, j'ai de bonnes chances d'être piraté?
Télécharger un film sur une plateforme légale, il n'y a aucun problème.
Non, illégalement gratos, sur C'est pas bien, par exemple.
Je vous souhaite bon courage, vous mettez un fierge et vous espérez que tout va bien.
Ok, c'est ça. Non, mais que, voilà, au moins clairement, c'est dit, vous le confirmez,
oui,
Nicolas.
Oui, parce qu'en fait, ça va permettre, notamment, selon les centres d'intérêt des uns et des autres, ça peut être des vidéos rigolotes, ça peut être évidemment des vidéos porno également, que les gens s'échangent et qui peuvent contenir, à l'insu des personnes qui les partagent, en tâches de fond, évidemment, des activités malveillantes. L'idée, c'est de vous rendre le sujet suffisamment alléchant pour que vous l'accueilliez sur votre propre ordinateur et effectivement que la contamination puisse se dérouler sans perturbation.
Une dernière chose, pardon Damien, un petit mot. Par exemple ici, nous n'avons plus de feuilles de paye, elles sont numériques. Est-ce que c'est possible de refuser et d'avoir une feuille papier?
Non, mais c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui on a toutes les entreprises qui veulent tout numériser, et c'est pour ça qu'il est important que ces entreprises, par exemple, fassent appel. Alors c'est intéressant, quand vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on connaît des pirates et des hackers, qui sont deux populations bien différentes.
Oui.
On peut plus refuser aujourd'hui. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est de motiver son entreprise à dire, si vous participiez à un bug bounty, par exemple, pour que des hackers, des vrais passionnés d'informatique, par exemple, testent votre sécurité légalement, pour voir si mes feuilles de paie avec toutes mes données privées d'entreprise sont bien protégés.
Bon, je pense que nous allons nous réentendre, messieurs. Nous avons deux, trois trucs à nous dire encore. Merci beaucoup, Damien Bancal, d'avoir été avec nous. Merci, Olivier, d'avoir appelé le 3216. Merci, Nicolas Arpagian. Je renvoie à votre que sais-je sur la cybercriminalité. Christophe Willem est arrivé. Il est juste à côté. Il est de retour sur scène avec un album et avec un livre. Une interview promo à suivre? Ah, pas trop de genre. Plutôt les yeux dans les yeux. À tout de suite. 3216.
3216 touche 1. Réagissez en direct sur RMC. RMC, M comme Maïtena.
Vous appelez comment, jeune homme?
Christophe.
Vous avez quel âge?
22 ans.
J'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui.
Christophe, exactement ce que disait Marianne, vous rentrez, on s'attend à tout, sauf à ça. Et dès l'instant que vous commencez à chanter, vous êtes habité de l'attaque, ça s'allume de partout.
Cet album, c'est un message de lâcher prise. C'est un album sur la seule et véritable urgence qui est de vivre tout court. Voilà.
Maïté Nabirabin.
Pardon. Je fais de la radio, ça sert à rien que je danse. Bonjour Christophe Willem.
Bonjour.
Bienvenue. Ça y est, Rio, l'album est sorti. Vous êtes au Théâtre des Étoiles. C'est complet, mais ça se tente. Vous y allez à l'entrée et vous dites, c'est Christophe qui m'a dit de venir. Vous êtes
bientôt en
tournée, absolument, en France, en Belgique et en Suisse. Vous faites ce qu'on appelle depuis quelques années la promo. C'est comment les moments promo?
Les moments promo, alors il y a les moments super agréables où on peut parler de ce qu'on fait, où on a le temps d'aller au fond des choses, et puis il y a le moment beaucoup moins agréable où ça fait un peu quand même le supermarché de la musique.
C'est ça, quand on est artiste, aujourd'hui on vous demande aussi d'être un bon vendeur.
Ah oui,
ouais.
Et c'est un truc que je fais très mal d'ailleurs, donc c'est pour ça que souvent je suis un peu en conflit même avec moi-même, parce que c'est difficile aujourd'hui de faire de la musique, d'en même temps faire partie d'un gros business qu'est la musique, et en même temps d'être à la fois le chanteur, le vendeur, enfin c'est un truc un peu bizarre.
C'est un truc d'époque, parce que dans les années 80 ou 90, on avait, je pense, un peu plus de considération pour les artistes, c'est-à-dire qu'on demandait à un danseur de danser, à un chanteur de chanter, à un acteur de jouer, il y avait de grands shows pour ça, où finalement, c'est pas si mal de vous donner la parole sur d'autres choses et peut-être parfois sur tout et n'importe quoi.
Moi, pour le coup, j'aime parler de d'autres sujets parce que y compris là sur un album comme celui-là où j'ai vraiment pris le temps d'écrire. Donc voilà, c'est intéressant pour moi d'aller au bout des choses, des fois d'étoffer un petit peu le propos de certains titres aussi qui ont besoin d'être éclaircis. Mais c'est vrai qu'après voilà, on aime. Moi, j'aime chanter, j'aime communiquer. Mmh. Et pour moi, il y a soit l'axe de on chante, mais dans ce cas-là, on chante plus que 3 minutes parce que quand je dis ça fait Supermarché de la musique, c'est quand elle est, quand on arrive en télé au milieu de 15 ou 16 artistes et qu'on chante une petite chanson puis merci au revoir, c'est super compliqué. On n'a pas le temps du tout de créer un lien. Avec
même
le public.
On vous demande de chanter, mais en raccourcissant, en faisant un timing précis.
Fameuse edit qu'on doit faire, on doit raccourcir les titres. Donc ça, c'est pas du tout agréable. En revanche, discuter, prendre le temps de parler, c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais.
Alors cet album, comme tous les albums, mais celui-là, c'est l'aboutissement d'un voyage, de beaucoup de travail, d'un parcours artistique, d'idées, d'envie, d'émotions. Comment est-ce qu'on peut raconter tout ça?
Comment on peut raconter tout ça? Je dirais que chaque album, pour moi, c'est réellement un instantané de ce que je suis au moment où je le fais.
Ouais.
Cet album-là, il s'est vraiment fait en sortant de la tournée précédente, donc de l'album paraît-il, d'un contexte qui était compliqué, parce que cette tournée s'est faite pendant le contexte des attentats et de cette série noire qu'on a connue ici. Et donc du coup, voilà, à la fin de cette tournée, il fallait un peu exorciser les choses sans du tout vouloir faire quelque chose de vindicatif ou prendre parti pour quoi que ce soit. J'avais besoin moi au fait d'aller au bout de certains sujets, dont celui-là, et je savais pas du tout par quel axe partir. Et avec Aurélien, avec qui j'ai composé cet album, je compose d'abord la musique. On voulait faire quelque chose d'assez festif, d'assez enjoué, et les textes ont vraiment vu le jour suite à un voyage que j'ai fait à Rio pendant les Jeux Olympiques avec la francophonie, où j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette ville. Voilà, tout. Alors, a démarré là-bas.
C'est pas pour autant un album de bossa nova, je le dis pour ceux qui attendent. Imaginons que je n'ai plus qu'un seul album à faire, je veux que ce disque résume absolument qui je suis. C'est fait?
Je pense.
C'est ce que vous avez dit?
Ouais, ben non, mais je sais pas quand j'ai dit. Mais franchement, je pense vraiment que celui-là résume exactement ce que je suis. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de détour. Je dis les choses clairement et en tout cas, voilà, je suis en phase avec cet album à 100%.
Vous en avez profité pour nous montrer vos fesses?
Ça vous a plu, non?
J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est dans le clip Marlon Brando. On vous voit déambuler dans un lotissement
Nu. C'est vrai. Ce clip, c'était alors.
Ça va sinon?
Ça va super. Non, ce qui m'amusait, vous le disiez juste en amorce, là, il y a 5 minutes, c'est vrai que aujourd'hui, c'est compliqué quand on est artiste. Moi, j'ai 34 ans, ce qui est quand même jeune.
Oui,
le mec
jeune.
Qui veut quand même se souvenir. C'est jeune,
c'est jeune,
mais en même temps, c'est déjà vieux. Non, mais en vrai, c'est déjà
ça
vieux.
Ça fait 10 ans que vous êtes là.
Dans la musique. C'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui la musique, on va chercher les talents à 15 ans. Oui, c'est assez particulier. Et du coup, quand ça fait 10, 11 ans que vous êtes là, ben, vous êtes plus jeune premier, mais vous êtes pas non plus l'artiste totalement confirmé et vous êtes dans un truc un peu hybride. Et c'est super difficile aujourd'hui quand vous revendiquez de n'être que artiste et de ne pas vouloir flirter avec le côté people de votre métier.
Oui.
C'est très difficile d'avoir une place à part entière. C'est vrai que dans Marlon Brando, ce qui m'amusait, c'était ça. C'était de dire, bon, on va aller jusqu'au bout du jeu, du truc. Et ce qui est super drôle, c'est qu'il y a certains journalistes, vous savez, la fameuse Intelligenza, qui a le monopole du bon goût, qui se sont fait un malin plaisir de critiquer le clip, mais qui eux-mêmes donc ont participé à un buzz qui est le même buzz que je dénonce moi.
Dans dénoncer.
Ce qui est super drôle, c'est ça. Mais voilà, c'était plutôt un clip pour dénoncer et me rire un petit peu avec tout ce système-là, quoi.
On va écouter un petit bout de l'album, mais juste avant, il paraît que vous avez un petit cri que vous faites quand vous êtes heureux.
Ah ouais?
Je sais pas, IA, il paraît.
Ah oui, IA. C'est sympa.
Très bien.
Ça vous a plu, ça aussi.
Je peux pas aimer. On va s'intéresser au processus créatif. Un jour, vous entendez ça.
Ah oui. C'est la soupe.
C'est la soupe. I'm without you. Et de ça, vous allez faire ça. Je
t'imagine. Exactement. Je te préfère moins si loin. Alors, l'explication.
Attendez, on va attendre les fameux mots, sinon... Seul avec toi. C'est la sous, c'était Alone with You.
Ouais.
Et vous écrivez Seul avec toi en réponse. Alors,
ouais.
Expliquez-nous.
Alors, bon, en un, je suis super fan de C'est la sous. Je pense que c'est une très, très grande artiste. Et j'écoutais énormément ce titre Alone. Et je me disais un jour, en chantant le titre, je me dis quand même, l'anglais, le fait de chanter en anglais est quand même une vraie chance. Parce que nous, si on disait je suis seul... seul avec seul sans toi pardon
ouais.
Je dis, mais c'est comme dire
c'est clair.
Non mais c'est comme dire il fait noir la nuit quoi, vous voyez,
ouais.
Qu'on peut
c'est
pas
vrai,
faire
c'est
ça
c'est.
Et je me disais bah non, mais c'est beaucoup plus intéressant de dire je suis seul avec toi et de développer toute une chanson avec le sentiment de solitude à deux, enfin c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est vrai que c'est cette chanson là qui m'a inspiré ce titre là donc Seul avec toi pour le coup.
Vous signez également la mélodie et le texte de cette chanson là. Alors, chanson, vous racontez, vous parlez de Latifa Ibziaten, la maman d'Ima Ibziaten, victime de Mohamed Merah. Nous l'avons reçue, Latifa, le jour de l'ouverture du procès du frère Merah. Nous lui avons fait écouter évidemment votre chanson. Et voilà sa réaction.
Je ne sais pas comment je peux le remercier. Au bout de 2 heures, il a compris qui je suis et quel est mon combat. C'est très fort de sa part et je le remercie du fond du cœur.
C'est très joli cette chanson, Christophe, parce que vous parlez d'elle, mais vous ne le dites pas.
Oui, complètement.
Et c'est très beau que vous ne le disiez pas, en fait.
En fait, c'est parce que je trouve que cette femme, j'ai eu la chance de la rencontrer comme vous. Et voilà, quand on rencontre cette femme, il y a des gens solaires. Cette femme est totalement solaire. C'est-à-dire que vous la voyez, elle n'a pratiquement même pas besoin de parler. On ressent tout l'amour qu'elle essaie de donner aux gens. Mm-hmm. Enfin, c'est assez incroyable. Et elle fait ça avec une telle pudeur que je trouvais que de mentionner son nom ou son histoire ou le nom de son fils ou peu importe autre référence à son histoire, ça aurait été quelque chose, une telle vulgarité par rapport à son combat, que je voulais que ça reste en filigrane comme ça, qu'on connaisse l'histoire de cette chanson, mais que ça reste quelque chose de beaucoup plus... comment expliquer, beaucoup plus grand, oui, que réduire tout ça à un fait divers. Voilà, c'est ça surtout qui m'intéressait là-dedans.
La nouvelle star dont vous êtes issue va faire son retour le 1er novembre prochain. Moi, j'ai voté pour vous. J'ai voté pour la tortue il y a 10 ans parce que l'artiste que je voyais devant ma télévision était bluffante. J'en ai parlé à mon mari là ce matin. Il m'a dit, je dis, mais pourquoi on a voté pour lui? Tu te souviens, toi? Parce qu'on a voté tous les deux. Et il me dit, mais on voyait un artiste devenir. On voyait un môme qui était dans un carcan et on voyait que le carcan, il était en train de, que vous étiez en train de vous agiter dedans et que ça allait, mais exploser. Et que c'était maintenant sous nos yeux. C'était comme ça pour vous?
C'était assez magique, Nouvelle Star. Moi, c'est vrai que je suis arrivée là-bas, plein de complexes, que j'ai toujours, d'ailleurs. Mais effectivement, il y avait ce côté un peu carcan. Il y avait le côté, le mec qui réalise pas trop qu'il est en train de chanter vraiment devant des gens et non pas dans son salon avec une télécommande. Donc, il y a quelque chose d'irréel. Et en même temps, ce que vous êtes en train de dire sur le côté, le carcan, le côté un peu étriqué, c'est très bête. Mais si je suis très honnête, des fois, ce métier, je me sens un peu étriqué, bizarrement, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai tellement envie de faire de choses, tellement envie de communiquer au sens large, que des fois je me dis, est-ce que la musique, ça va me suffire pour communiquer de la manière dont je veux le faire, en fait? C'est assez bizarre.
Ça veut dire jouer, peut-être, écrire,
Écrire. Moi, j'aime le rapport avec les gens, j'aime l'échange, j'aime le dialogue avec les gens. Je trouve que c'est, moi, tout au long de ma vie, même si, encore une fois, j'ai que 34 ans, c'est fécond de dire ça, mais je m'enrichis toujours de discuter avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que moi, de faire évoluer ma réflexion. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup.
Ça s'appelle de la conversation, c'est l'art français, ou de la politique. Vous pourriez vous engager en politique. Dans le livre qui va paraître début novembre, qui s'appelle Christophe Willem, vous racontez Christophe Berthier. C'est vous, le môme victime de harcèlement scolaire, Durier, pardon.
Oui, Durier,
pardon.
Tiens, Berthier.
Non, pas, voilà. vous racontez l'ado victime de harcèlement scolaire au collège, au lycée, les insultes et les coups. Vous le chanterez un jour ou ça n'est pas un sujet de chanson?
Peut-être qu'un jour je chanterai. Après, je sais pas. Je j'aime pas faire de choses qui sont encore une fois vindicatives ou des choses comme ça.
Non, vous pouvez le faire dans la douceur.
On peut le faire dans la douceur, mais je sais pas. Je pense que ce sera plus utile peut-être un jour au contact des gens, d'ouvrir un dialogue avec peut-être ces jeunes en difficulté. Voilà, j'aimerais bien. Je sais que le travail pour revenir sur Latifa, le travail que fait Latifa par rapport à la radicalisation, l'obscurantisme, ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Et en même temps, voilà, faire ce même travail peut-être avec une association ou autre pour aller justement au contact des élèves qui sont victimes de violence, ça peut être un truc qui me plairait davantage que le faire en musique.
Mais j'entends beaucoup d'engagements citoyens qui arrivent.
Moi?
Oui.
Ah, mais moi, je suis extrêmement, quand vous parlez de politique, je suis passionné de politique.
Vous allez regarder Marine Le Pen demain soir, elle est à la télévision.
Je vais regarder parce que c'est important pour, la suite de l'histoire même politique de ce qui se passe en ce moment avec le clivage qu'il y a avec Philippot et tout ça. C'est intéressant de voir. Et puis quand on voit justement ce qui s'est passé pendant ces élections, il faut toujours regarder, c'est très bête ce que je vais vous dire pour moi, mais il faut toujours regarder les gens potentiellement dangereux en face.
Oui.
Donc je regarde toujours les gens, plutôt que d'en avoir peur, je préfère les regarder en face.
Vous pourriez vous engager en politique, Christophe?
Je pense.
Oui?
Non, très sincèrement, je pense.
Mais j'entends ça.
Oui, non, je pense.
Dans un mandat plutôt local ou plutôt national?
Je sais pas. Alors local, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et je trouve que la politique, pour moi, l'important, c'est en local, parce que c'est le tissu justement qui sert à fédérer les gens, c'est en local que ça se passe. C'est là qu'il y a le plus de travail à faire. Donc oui, pourquoi pas.
Chez En Marche?
Comment?
Chez En Marche?
C'est En Marche, objectivement, c'est là qu'il y a le plus grand mélange en termes d'idées. Donc, je pense qu'effectivement, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire pour le moment. Enfin, on vient de voir avec le Parti Socialiste qui se disloque complètement. Et puis à droite, ça part en vrille. Donc, pour l'instant, c'est pas trop où aller.
Pour l'heure, vous avez voulu faire de la gym, du patinage artistique. Vous ferez peut-être de la politique. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on a, c'est un artiste. Et on est bien heureux. L'album s'appelle Rio. Vous pouvez également aller aux étoiles, puisqu'il y a encore des places. Et puis en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Vincent, est-ce que tu es là?
Vincent,
oui.
Si t'es pas là, c'est pas la peine. Tu dors, Vincent?
Non,
Vincent,
il y a
un problème.
Attendez, Christophe, t'étais en forme ou quoi?
On est en pleine forme.
Mais moi, écoute, je vais essayer de dialoguer. Je vais pas chanter parce que je sais pas. J'aurais aimé. C'est un art tellement magnifique.
C'est vrai.
On va parler, on savait pas quoi faire. On s'est dit, on va taper sur la gueule de l'entraîneur du PSG.
T'as raison.
Ou Mayenry.
C'est
gratuit. On va le flinguer ce soir. Tu vois, ça va nous occuper un peu l'après-midi.
C'est horrible, tu sais.
Oh, ouais, voilà. Non, c'est comme ça. Tu vois, comme il a pas réglé le pénalty, qui tire les pénalty. C'est futile, mais nous, ça va nous occuper pendant une petite heure.
Allez. On va écouter ça. Voilà. On t'embrasse fort,
ciao,
Vincent. On t'embrasse fort.
Ciao.
Je l'ai pas dit. Je signale la sortie du livre qui s'intitule Christophe Willem, qui a été écrit par Élodie Suigo,
ouais,
qui sortira donc le 8 novembre. Si vous voulez en savoir plus sur l'artiste Christophe Willem,
oui. Je peux dire, c'est hyper important le livre parce qu'on ça fait très longtemps qu'on me demandait un livre et je ne voulais pas parce que je trouve qu'une biographie c'est ridicule à 10 ans de carrière. Et en fait, Élodie a un axe intéressant, c'était de me décrire à partir tous les choix qui ont été faits sur les 5 albums et du coup, au travers des entretiens, on arrive à mieux me connaître sans forcément raconter mon histoire et ma vie que je trouve pas si intéressante.
Ça vous regarde, nous on n'est pas de ce point de vue là. Allez, on se retrouve demain à 15h sur RMC. On va partir pour découvrir la vie fragile, se découvrir un moment encore. Tu sais quoi? On va s'aimer. Dis-moi comment
rebondir. RMC, 15h-16h, M comme Maïtena.